Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être là ce matin. Nous voulons te dire merci aussi de la liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Te remercier, Seigneur, parce que nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer, pour chanter tes louanges. Seigneur, pour écouter ta parole aussi. C'est toi qui conduis ce moment. C'est toi qui ouvres nos cœurs pour que nous soyons réceptifs, Seigneur, et que nous mettions tout ce que nous entendons en application dans nos vies. Amen.
Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26. Chapitre 26, et on lira les versets 20 jusqu'au verset 35. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit dans la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Nous sommes venus ce matin reproduire par le partage du pain et par le partage de la coupe ce repas. Aussi, nous sommes venus reproduire le moment de communion que Jésus avait avec ses disciples. Nous allons donc pouvoir communier avec Jésus, lui parler, le remercier et nous souvenir que son sacrifice nous a délivrés de la colère qui vient. Qu'il nous a aidés à reconnaître notre nature et à purifier nos cœurs de nos péchés qui en découlent. Cela est un cadeau du ciel que nous prenons avec foi, avec la foi en Jésus-Christ qui est le moyen d'être sauvé et par lequel ce cadeau a dû passer. Nous reconnaissons que la grâce n'a pas regardé à ce que nous sommes, mais qu'elle a agi puissamment en nous pour nous délivrer. Alors nous allons lire, et je vais lire avec vous, Éphésiens 1, les versets 4 à 7, et on va les lire doucement, car ils sont d'une profondeur extrême, et ils résument un peu ce que je viens de dire juste avant. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Quelle portée ont ces phrases ? Et puis on prend aussi Colossiens, chapitre 1, au verset 12 et suivant. Alors ces versets nous poussent à remercier le Seigneur. Il commence par « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a portés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous remercions Dieu pour ce plan parfait qui est noté dans sa parole si clairement, pour ce plan parfait et pour son Fils qui a pris notre place, cette place de condamné qui était la nôtre, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Cette délivrance a coûté cher à Jésus, et en même temps que nous en profitons, nous n'allons pas oublier ce matin surtout toutes les souffrances que le Seigneur a subies. À peu près tout ce que le Seigneur a subi est résumé dans le chapitre que nous connaissons bien, d'Ésaïe 53. Alors je vous propose de lire un seul verset ce matin. On va prendre le verset 2. Le verset 2 d'Ésaïe 53 nous dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et ce verset 2 est suivi du premier mot du verset 3, qui est le mot « méprisé ». Tout ce qui est dit dans le verset 2 contient du mépris. Une faible plante, méprisable. Jésus était cette faible plante. Il est devenu homme dans toute sa faiblesse. Quelle comparaison avec la place qu'il a quittée au ciel. Il n'est pas arrivé dans des habits royaux, mais dans l'indifférence, comme une faible plante, méprisable. Jésus a été ce rejeton qu'on méprise, alors qu'il annonçait le salut universel. Comme Joseph, qui est un exemple parfait pour nous montrer ce que le Seigneur a fait, comme Joseph, le fils aimé de Jacob, qui était le plus faible et le plus jeune, qui était rejeté et méprisé par ses frères. Ce Joseph, il annonçait ce qu'il allait se passer à ses frères, au lieu de prêter attention, comme les Juifs au temps de Jésus, ils veulent le tuer. Mais il a été sauvé in extremis par son frère aîné, en parlant de Joseph. Il a dit des frères de Joseph dans Genèse 37, verset 4, « Il ne pouvait parler avec amitié. Il était donc méprisé des siens. » Alors pensons à Jésus, bien sûr, méprisé de sa génération, des Juifs qui ne lui ont pas parlé non plus avec amitié. Et puis pensons aussi encore à ce monde actuel qui méprise tant l'Évangile. Méprisé encore, puisque rien n'attirait les regards, pas de prestance, pas d'attirance, ni propagande, pour qu'il ne soit pas reconnu. Il n'a pas été annoncé, il n'a pas été reconnu. Il n'a rien fait pour plaire, cela a engendré bien sûr le mépris. 1 Corinthiens 1, verset 8, « Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour rendre à néant celles qui sont. » À l'inverse de ses opposants, nous avons tous remarqué, et nous le savons, que Jésus, lui, n'a eu aucun mépris pour personne. Il a répondu au mépris par le silence. Mais aussi, il ne méprise pas les disciples qui l'abandonnent, ni Pierre qui le renie, ni Judas qui le trahit, ni Thomas qui lui demande des preuves. Nous ne voyons rien de ce sentiment dont lui-même était victime. Il dit « Je suis avec l'homme contrit et humilié ». Et il dit aussi « Je ne mets pas dehors, je ne méprise pas celui qui vient à moi ». Il ne méprise aucune de nos demandes, aucune de nos prières. C'est un sentiment qu'il a subi, mais qu'il ne connaît pas. Il dit aussi à tous ceux qui entendent, mais qui ne reconnaissent pas le Seigneur pour eux-mêmes, il dit ce verset d'amour de Romains, « Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Et pour tous ceux qui le craignent, sommes-nous de temps en temps, de temps à autre, dans le mépris vis-à-vis du Seigneur? Quelle question! D'emblée, on répondra non, bien sûr. Pourtant, il y a des formes de mépris plusieurs formes de mépris. Les bourreaux méprisaient le Seigneur. Ce mépris s'est transformé en haine. Le monde est dans l'indifférence. C'est une forme de mépris. Je ne prends que ces deux exemples-là. Pour nous, il peut y avoir du mépris pour le Seigneur. Cela peut se faire dans quelques négligences, des négligences de toutes sortes. L'oubli de remercier, la désobéissance dans les petites choses, les moindres choses, ou dans toute forme d'impiété. Pour le savoir, observons-nous dans nos vies, dans nos choix, mais surtout, écoutons l'Esprit qui nous parle. Sommes-nous capables d'un manque d'intégrité, de filouterie devant le Seigneur? Sommes-nous capables de trahir, de tordre notre conscience en méprisant, en laissant de côté ce que le Seigneur y dépose? Alors le Seigneur nous invite ce matin à être sensibles à toutes sortes de mépris. Le contraire de mépriser, c'est honorer. Et c'est ce que l'on est venu faire ce matin. Alors maintenant, nous allons nous préparer. Nous sommes invités à participer à ce repas, et comme le dit Paul aux Corinthiens, après que nous ayons éprouvé notre cœur devant le Seigneur, en y reconnaissant s'il y a quelque forme de péché ou de mépris. Honorons le Seigneur en libérant le remerciement et la louange en ces instants. Honorons le Seigneur par nos actes durant toute cette semaine. Et la scène est aussi... Ce moment précieux est aussi cet engagement que nous devons prendre devant le Seigneur. Nous voulons prier pour le remercier. Te disons merci, Seigneur, parce que tu as pris la place que nous devions avoir. Tu as été méprisé de beaucoup. Tu n'as jamais rendu ce mépris et tu ne le rends pas pour nous non plus. Alors apprends-nous, Seigneur, à te remercier, à t'honorer, à être, Seigneur, saint devant toi. Et, Seigneur, tu nous accompagneras. Pour qu'il n'y ait aucun mépris, Seigneur, dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu as subi. Nous te remercions pour ces instants passés devant toi. Amen.
Nous avons repassé vendredi soir la fidélité de Dieu. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez l'écouter. C'était vraiment important de se rappeler que Dieu nous rappelle dans sa parole combien il est fidèle. On a pu voir beaucoup de versets, et tous ces versets nous ont amenés à être encore plus conscients, plus éclairés, renouvelés, que notre Dieu est fidèle dans toutes nos circonstances. Et ça nous a fortement encouragés. Et il y a un élément qui lui permet d'être fidèle, c'est qu'il nous regarde. C'est le regard de Dieu. On va prendre quelques versets, je vais en lire quelques-uns. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16, au verset 9, il est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc notre Dieu nous regarde toujours. Alors c'est aussi tellement rassurant et certain qu'il nous regarde tous, parce qu'il nous aime tous. On a vu combien le sacrifice du Seigneur a été grand. Et il étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc ses regards sont sur nous pour nous soutenir, pour si nous sommes tout entiers à lui. Un deuxième verset dans le psaume 113, enfin il y a deux versets, c'est versets 5 et 6. Le psaume 113, je vous lis. « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ?» Il a sa demeure en haut et il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Et dans le psaume 23, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est très personnel. Toute la parole de Dieu, pour nous, on le sait, est personnelle, mais le regard de Dieu, il est sur chacun de nous, ce matin et tous les jours de notre vie. Quelquefois, quand les épreuves s'abattent, on a un fort doute que Dieu nous regarde. Et l'ennemi va faire encore plus enfoncer le clou pour nous dire « Mais regarde, ton Dieu, il est où? Il ne te voit pas ?» Non. « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi » Et ainsi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et puis, Ésaïe 41, 10, qu'on connaît bien, nous dit ceci, « Ne crains rien,
ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et les psaumes 34, versets 5 et 6, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Cette fois, il y a notre regard à nous. Et on a vu tous ces versets, on a encore plus de la fidélité de Dieu parce qu'il a son regard sur nous. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, soit pour nous encourager, soit pour nous reprendre, on l'a vu aussi, et pour nous diriger dans ce chemin qu'on doit suivre. Mais là, il nous est dit, quand on tourne les regards vers lui, il faut que, moi aussi, tous les jours, j'ai mes regards sur le Seigneur pour que je puisse bénéficier complètement du regard de Dieu qui va me montrer le chemin que je dois suivre, qui va m'encourager, qui va me consoler, qui va m'aider, qui va me reprendre s'il le faut. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et alors, ceci nous est dit par rapport au Seigneur Jésus, qui est le témoin fidèle, il est déterminé comme ça, Jésus dans la parole, sur le regard que nous devons avoir sur lui. Hébreux 12, 1 à 3, on va le lire ensemble. Épître aux Hébreux, chapitre 12. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez pas l'âme découragée. » Là, il nous est clairement indiqué que pour pouvoir rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppe, il nous faut une chose, avoir les regards sur Jésus. Oh, comme c'est important de savoir que Dieu nous regarde, que le Seigneur Jésus nous regarde et intercède pour nous, pour que ça soit une réalité, et que pour pouvoir le rencontrer ainsi et lui remettre notre vie, tout péché et tout fardeau qui nous charge si souvent, pour décharger notre fardeau, il faut que nous ayons nos regards sur lui. Et c'est cela la définition de la vie du chrétien. C'est uniquement cela. À partir de là, le Seigneur peut travailler. Donc ce n'est pas notre connaissance, il faut de la connaissance, bien sûr, de la parole ou autre, ce ne sont pas non plus nos valeurs morales, bien sûr qu'il les faut, mais nos regards fixés sur lui. Et ceci a une grande importance. Alors ces regards, ce sont nos yeux physiques, de ce que nous regardons dans la vie courante, qui peuvent nous rapprocher ou nous séparer de lui, mais c'est aussi, surtout, notre regard spirituel par notre cœur, que tout notre cœur puisse lui être donné, et par nos pensées également. Nos pensées, elles peuvent être les nôtres ou celles du Seigneur. Et on relit souvent Ésaïe 55, 8, où Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est ce contact entre le regard du Dieu Tout-Puissant sur nous, entre Jésus qui intercède pour nous, et notre cœur qui lui est donné en levant nos regards sur lui. Comme ça encourage de savoir que si nous portons nos regards sur lui, alors nous ne pouvons pas avoir de déception et nous saurons toujours le chemin qu'il veut nous faire suivre. Et il y a dans nos vies des tracas, des soucis, des préoccupations, des fardeaux, on l'a revu dans Hébreux 12. Eh bien, à ce moment-là, si nous regardons à lui, on peut les laisser. Sinon, on ne peut pas tout seul se libérer de nos fardeaux, de nos craintes, de nos angoisses. Mais si on regarde à lui, c'est lui qui va décharger notre épaule. Et à ce moment-là, malgré les fardeaux, malgré les douleurs, malgré les épreuves que nous connaissons tous, nous pouvons alors garder notre paix intérieure, nos yeux étant toujours fixés sur lui et son regard s'abaissant sur le nôtre. Et il y a à ce moment-là une magnifique jonction du regard de l'Éternel, du regard du Seigneur sur nous, et on peut garder à ce moment-là paix. Bien sûr, ceci nous amène à comprendre que nous devons aussi prendre cette décision de nous tourner vers lui et plus de regarder à droite ou à gauche dans nos vies pour chercher des solutions. C'est pourquoi Ésaïe 45, 22 nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Et cette fonction de regarder à lui dans toute la Bible, elle est absolument partout parce qu'elle est essentielle. Et on va prendre un exemple de quelqu'un qui a connu un regard qui n'était pas tourné vers le Seigneur, bien au contraire, puisqu'il persécutait les chrétiens, et qui a montré ce chemin. On va voir l'apôtre Paul, bien sûr, dans Acte 9. On va lire Acte 9. On lira du premier verset jusqu'au verset 9. On connaît tout cela, bien sûr. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Donc, versets 8 et 9, il ne voyait rien, quoique ses yeux soient ouverts. Je ne m'étais jamais beaucoup posé de questions sur ces passages. Il ne voyait rien, quoique ses yeux soient ouverts. Et au verset 12, il est dit ceci, on va continuer un petit peu, versets 11 et 12. Et le Seigneur dit à Ananias, donc, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui a posé les mains afin qu'il recouvre la vue. » Et Ananias va donc aller vers Paul et il est dit au verset 17, « Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » But d'Ananias. Et au verset 8, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Verset 18, « Il tomba de ses yeux comme des écailles. » Et je me suis un peu interrogé de cette histoire. Ces écailles, elles existaient, puisqu'elles vont tomber de ses yeux. Elles n'ont pas été mises comme ça à ce moment-là. Et cette cécité qui lui a été imposée, par rapport à son ancienne vie, si on veut dire, il va recouvrer la vue, mais auparavant, il faut que les écailles tombent. Et c'est tout à fait étonnant, ce problème des écailles. Alors, ça a été un problème physique, certes, puisque auparavant, Saul de Tarse avait une vue, une vision physique des gens qui étaient en face de lui, parce qu'il les mettait en prison et il voulait tous les faire périr, les chrétiens. Et puis, dans sa vision intérieure aussi, spirituelle, une opposition complète au Seigneur Jésus. Et les écailles vont tomber. Ces chrétiens, qui sont des chrétiens qui, pour lui, étaient des ennemis, vont devenir ses frères. Et le Seigneur Jésus, qu'il combattait de toutes ses forces, il va devenir son Seigneur. Que veux-tu que je fasse ? Voilà comment les écailles sont tombées des yeux de Saul de Tarse et comment sa vision physique, oui, mais surtout sa vision spirituelle a été absolument bouleversée. Son regard spirituel, qui est le plus important, bien sûr, il a reconnu Jésus le Sauveur et lui a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et on va continuer ce chemin de Paul qui nous montre combien le regard a changé pour changer la vie. Eh bien, on prendra dans acte 26 maintenant. Acte 26. Et on lira les versets 14 à 20. Verset 14, acte 26. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, comme lui a eu les yeux ouverts, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, comme lui y est passé. » Ça devait être le même chemin pour tous ceux qu'il allait rencontrer, et pour nous aussi, pour ceux qui sont sur notre route, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et une fois les écailles tombées, alors à ce moment-là, Jésus a dit à Paul pourquoi il lui est apparu, on a vu. Et cette vision de Paul sur le chemin de Damas n'a pas été une extase passagère, mais une vision comportant un ordre clair et précis, et où Paul le dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Le Seigneur allait pouvoir lui donner, avec ce regard neuf qu'il avait sur lui, pourquoi il allait l'envoyer. Pour prêcher l'Évangile et amener ceux qui, comme lui, étaient dans les ténèbres, dans la puissance de Satan, et pouvoir les délivrer, que les écailles tombent de leurs yeux, pour qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Voilà son chemin. Alors, lorsque nous aussi, nous naissons de nouveau, bien sûr, quand nous rencontrons, nous avons la vision de ce que Jésus attend de nous, d'une certaine façon. Mais il est essentiel que nous ayons les regards sur lui, pour que lui demander qu'il nous ouvre nos yeux spirituels dans toutes nos circonstances, afin que nous obéissions au plan qu'il a pour notre vie. Et la plus grande importance de ce plan, c'est que nous, marchant sur le chemin qu'il nous trace, nous puissions amener tous ceux qui sont autour de nous des ténèbres à la lumière. Que les écailles puissent tomber des yeux, car il faut cela, c'est ça la nouvelle naissance, pour qu'ils reçoivent la lumière du Seigneur, la vie, et qu'eux-mêmes deviennent des témoins. Il ne nous suffit pas de savoir que Dieu a sauvé le monde, bien sûr. Je dois être en rapport direct avec le Seigneur Jésus. Paul n'a pas reçu un message ou une doctrine à proclamer. Il a été mis en contact direct, personnel avec le Seigneur. Et chacun de nous, nous devons être en contact personnel avec le Seigneur Jésus par la prière, par la parole, par les moments que nous passons avec lui dans l'Église, afin que ce soit ce contact personnel, ce regard spirituel vers lui, regardant à Jésus, qui croise son regard bienveillant, réprobateur quelquefois, et ce regard qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Et notre vie chrétienne, c'est uniquement cela. Tout le reste existe évidemment, mais c'est mon regard spirituel, en donnant mon cœur, en donnant mes pensées à Christ, qui lui me regarde, et cette jonction nous donne cette marche avec lui, cette marche bénie. C'est d'une grande simplicité, évidemment, c'est d'une grande décision également. Mais comme c'est rassurant de savoir que notre chemin avec Jésus, il est celui-là, qu'il puisse nous regarder et nous parler, nous puissions lui répondre et lui obéir, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et le verset 16 contient cet ordre impératif qui est aussi pour nous. « Je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin. » Et le Seigneur veut faire de nous, chacun aussi ce matin, des serviteurs et des témoins. Il ne veut pas que nous restions avec les bras ballants dans notre vie, nous ne servirons à rien. Et c'est notre maître qui parle. Donc il s'agit pour nous de pouvoir lui dire « Oui Seigneur, je veux avoir les regards sur toi, car je sais que toi, tu as toujours les regards sur moi, que tu es toujours fidèle, que tu ne peux pas me mentir, que tu ne peux pas m'emmener dans une mauvaise voie, et que tu ne peux pas me laisser abattre par le découragement ou la douleur, mais que tu vas me consoler également. » Et les conséquences qui sont pour Paul, c'est que ça deviendra le plus grand serviteur du Nouveau Testament, avec toutes les épreuves qu'il a subies, d'où il est sorti, et le message qu'il donne. Mais pour lui, ça a été aussi une transformation de sa vie intérieure, complète. Et c'est aussi pour nous. On va prendre quelques versets. Quand on lit ce qu'il dit maintenant, on va passer dans l'Épître aux Philippiens, cette fois. Philippiens, au chapitre 3, on lira le premier verset. Philippiens 3, premier verset. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Voilà, ça c'est le verset qui va accompagner Paul toute sa vie. Et pourtant, il a eu des épreuves extraordinaires, on les connaît. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Parce que dans les circonstances que nous passons, on peut se réjouir, non pas d'une exaltation, mais d'une réjouissance intérieure paisible, parce qu'il est là. Il a son regard sur nous. Et Paul l'a vécu après complètement, ça a changé complètement sa vie. Et puis dans Philippiens 4 maintenant, alors là, on va lire à partir de verset 4 au verset 7, il redit la même chose. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça aussi, avoir les regards sur lui, bien sûr. Hein. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel verset merveilleux! Si nous nous confions en lui, si nous avons les regards sur lui, sachant que lui est fidèle, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, on ne peut pas se la créer, bien sûr, va garder nos cœurs, les garder, pas seulement un moment, mais gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et si nous prenons maintenant, on continue dans ce chapitre 4, si on lit le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » On pourrait l'écrire « Je ne peux rien par moi-même, par ma force. » Mais « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Là où il nous emmènera, dans le chemin qu'il a prévu, il nous donnera de pouvoir par sa grâce, par le Saint-Esprit. Le chemin de notre vie nous permettra de le faire complètement en ayant les regards sur lui, parce que c'est lui qui va le faire. Comme ces versets nous font du bien, de savoir que nous avons un maître qui est le plus merveilleux des maîtres, on l'a vu en partageant la scène, et qu'on pourra tout ce qu'il nous demandera, parce que c'est lui qui le fera. Et on lira également le verset 19, c'est presque la fin des Philippiens. Et avant de donner la prière finale, l'apôtre Paul dit ceci au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Oh, combien de fois on a des besoins qu'on imagine, qu'on n'a pas, puis qu'on voudrait. Mais si on a les regards sur lui, on aura la paix, parce qu'on saura que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors il pourvoira de la façon dont il déterminera lui. Pas forcément de la nôtre. C'est pour ça qu'il faudra le laisser faire, mais ce sera la meilleure manière. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alors là, on ne risque pas la banqueroute, parce que Dieu est riche, et il est riche en bonté, il est riche en miséricorde pour nous. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Celui qui a donné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous donnera tout. Alors, gardons nos regards sur lui, toujours. Prenons le temps, tous les jours, dans la prière, ça c'est notre regard, dans la méditation de sa parole, dans notre relation avec lui, dans la communion fraternelle, ça en fait partie également. Et réjouissons-nous. Moi je ne mets pas le mot toujours parce que je n'y suis pas encore, mais le Seigneur le veut quand même. Voilà, quelques exhortations qui m'ont fait suite pour ce message de vendredi soir. Dieu est fidèle et nous pouvons en être sûrs pour toute la semaine.
Des choses toutes simples, et pourtant. Alors dans ma vie de tous les jours, je suis réputé pour être quelqu'un qui trébuche. Quand il y a un obstacle, ben je ne l'évite pas. Et je me suis posé la question, là, tout à l'heure, ça m'a parlé, je me suis dit, mais pourquoi? Pourtant j'ai des yeux. Parce que je n'ai pas vu, parce que je n'ai pas regardé, en fait. Dans notre chemin spirituel, le Seigneur nous a donné, il a ouvert nos yeux. Mais quand on trébuche, pourquoi? Ben c'est parce qu'on ne regarde pas. Tout simplement. Alors, regardons, comme Michel nous l'a rappelé, les yeux fixés sur Jésus, pour toute cette semaine, puis les jours à venir, et les années à venir.
Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, nous voulons, je veux te remercier de ta parole, car j'en avais besoin. Tu nous as rappelé Saul de Tarse qu'est devenu Paul. Et combien, Seigneur Jésus, cette transformation a été bénie. Tu l'as saisi par tes mains. Il avait les regards fixés sur toi. Il a connu toute ta fidélité. Et il t'a honoré toute sa vie. Et t'a amené beaucoup d'âmes. Alors je te loue, Seigneur, et je te rends grâce parce que tu veux faire cette chose pour chacun de nous. Les regards fixés sur toi. Et je t'apporte encore toute cette semaine et chaque jour afin de ne plus marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Alors merci, mon Dieu, mon Père, et louange à toi pour tout ce que tu nous as apporté, cette manne dont nous avons tous besoin. Amen.